y a beaucoup de gens qui ne se pensent pas assez compétents, qui n'aiment pas leur voix et qui hésitent à publier du contenu. Donc là, une fois que ce sera lancé, n'hésitez vraiment pas à produire du contenu.
E-learning,
formation,
micro-learning,
neurosciences,
apprentissage,
dyslexie,
mind mapping,
numérique,
pensée design,
apprentissage social,
co-création,
collaboration.
Bienvenue dans Formation 3.0, le podcast qui examine la formation sous toutes ses coutures. Je suis Marco Bertolini, je suis à la fois l'hôte et le producteur de cette émission. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11, qui est l'épisode 1 en réalité de la saison 2 de Formation 3.0. Alors aujourd'hui, j'invite Antoine qui est le cofondateur d'une application qui s'appelle eSyllabus et qui transforme vos cours en podcast. Donc c'était vraiment l'autre rêve pour reprendre une nouvelle saison avec vous. Antoine, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vraiment ravi de vous accueillir ici aujourd'hui. Alors, expliquez-nous un peu qui vous êtes et comment vous en êtes arrivé finalement à créer une appli comme eSyllabus.
Alors, bonjour déjà, merci de m'avoir invité dans ce podcast. Qui je suis ? Donc, je m'appelle Antoine Caria, j'ai 25 ans, 26 en août, et j'ai créé eSyllabus officiellement le 21 janvier 2020. Et officieusement, ça faisait déjà un an avant cette date-là que j'avais commencé. L'idée m'est venue, c'est une histoire que je raconte tout le temps. J'ai même failli en faire une publication sur LinkedIn et sur les réseaux pour l'expliquer. Mais l'idée m'est venue quand j'étais en Erasmus à Bologne en 2016. J'avais des centaines de pages à étudier en un laps de temps super court. Et bon, je vais être totalement transparent. Quand on est étudiant, la première chose à laquelle on pense en Erasmus, c'est pas nécessairement de réussir ses examens. C'est peut-être plus l'expérience que de réussir ses examens.
Oui, tout à fait.
Exactement. Et du coup, je me suis retrouvé en fin de période à devoir assimiler une quantité de matière énorme en un laps de temps super court. Et du coup, j'ai pris mon temps pour enregistrer toutes ces notes que j'avais en face de moi en capsule audio et je les écoutais partout quand j'allais faire mes courses, quand j'allais me balader dans la ville. Et du coup, j'avais mes moments d'études et les moments où je sortais de chez moi, où je continuais à étudier de manière entre guillemets passive. Et ça m'a permis de réussir mes examens. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça peut plaire à d'autres étudiants.
Ok, mais enfin, tout le monde n'enregistre pas ses cours pour créer une start-up dans la foulée. Donc, qu'est-ce qui a fait le déclic finalement de passer de quelque chose de très personnel pour réussir ses propres examens à un produit qui devient partie d'une industrie, l'industrie du podcast qui est en pleine croissance?
Oui, mais c'est une super question parce que, comme je vous l'ai dit, on est en 2016 à cette époque-là et je suis encore aux études à l'EFEC à cette époque-là encore en commerce extérieur. Et donc, je reviens de cet Erasmus et en fait, je suis depuis cette époque-là et même avant passionné d'entrepreneuriat. Je suis tout ce qui se passe en Belgique, en France, un peu en Angleterre, aux États-Unis, mais surtout Belgique-France et je trouve des parcours super inspirants et je me dis depuis très très longtemps que j'ai envie de me lancer dans quelque chose. Maintenant, je finis d'abord mes études et puis en fait, je passe à l'ICHEC pour faire un master là-bas. Et à l'ICHEC, il y a un incubateur qui s'appelle le Start Lab de l'ICHEC qui aide des jeunes entrepreneurs à se lancer. Et du coup, je me dis bon, toutes les planètes sont alignées pour que je me lance. Et en plus, cette idée, même si ça fait 3 ans qu'elle est dans ma tête, on est en 2019 à cette époque-là, elle y est toujours justement dans ma tête. Et donc, je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire avec cette idée. Et en plus, il y a un incubateur qui peut m'aider à me lancer au début. Allons-y, quoi. Je me lance et voilà. Et donc, en fait, comme vous dites, il y a une grosse différence. Et d'ailleurs, en entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui ont des idées, beaucoup de gens qui nous disent « Ah ouais, j'ai l'idée du siècle, machin ». En entrepreneuriat, tout le monde sait qu'une idée, ça vaut très, très peu et que c'est évidemment l'exécution qui est importante. Et donc, il fallait que je me lance à un moment donné et arrêter de dire que j'avais une idée.
Oui, un incubateur, c'est vraiment un très bon moyen pour passer de l'idée au projet, justement.
Effectivement, surtout au début, c'est-à-dire qu'au tout début, je me suis retrouvé un peu avec le syndrome de la page blanche comme l'écrivain, quoi. Mais où on arrive le premier jour où on se dit qu'on se lance et on ne sait pas par où commencer. Et donc, en fait, ils mettent les premiers outils à disposition pour pouvoir mettre les bases du projet.
Ok. Et cet incubateur, alors cet accompagnement, ça a pris combien de temps et qu'est-ce que vous en avertirez, vous, personnellement?
C'est une incubation de 2 à 3 ans. Enfin, tout dépend de si on continue et si on lâche pas l'affaire, je vais dire, pour parler clairement. Mais les trois principales choses, ce sont un espace de coworking, donc on peut travailler directement dans un environnement avec d'autres entrepreneurs, des formations, donc justement les bases de tout projet commence par. Enfin, les formations dans les premières années permettent justement de jeter les bases de tout projet, donc le business plan, enfin le business plan, le Lean Canva, le business model Canva, des choses qui rentrent dans l'entrepreneuriat directement. Et ensuite, on est accompagné par un coach entrepreneur qui nous aide, qui nous conseille, avec qui on a des réunions quasiment tous les mois. Et donc ça, c'est les trois choses principales que permettent d'avoir, enfin que l'incubateur met à disposition.
Ok, alors je vais vous poser la même question que j'avais posée à vos collègues de WooClap. Est-ce que c'est plus facile de démarrer à Bruxelles ou est-ce que c'est plus difficile finalement que de démarrer dans un endroit comme Paris ou
Je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça et je pense que tant qu'on n'a pas testé autre part, on va se dire que Bruxelles est bon. Maintenant, évidemment que Paris ou Londres a beaucoup plus d'opportunités, ne fût-ce qu'en termes de densité d'entrepreneurs au mètre carré, au kilomètre carré, je vais dire. Là où en Belgique, ben, on a beaucoup moins de projets parce qu'on est un plus petit pays. Et je pense qu'on, comme je le disais, on est assez satisfait de ce qu'on fait en Belgique parce qu'on n'a pas potentiellement été voir ailleurs. Et c'est pour ça que je m'informe beaucoup sur l'entrepreneuriat à Paris et Londres. Ne fût-ce que pour l'investissement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 10 fois plus d'investisseurs en France, juste à Paris même. Et potentiellement 20 à 25 fois plus à Londres. Donc, ça, ce sont des chiffres très pragmatiques qui montrent que c'est potentiellement plus difficile de lancer à Bruxelles. Après, il ne faut pas se trouver d'excuses et se lancer, peu importe là où on est, quoi.
Mais dans votre cas, c'est plutôt une réussite parce que, si j'ai bien compris, vous êtes un des podcasts les plus écoutés en Belgique.
Oui, à l'époque où on n'avait pas d'application, on était un des podcasts parce qu'en fait, on se catégorisait comme podcast. Même si maintenant on essaye d'éviter d'utiliser ce terme, pourquoi ? Parce que pour nous, un podcast, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, c'est clairement ce qu'on fait aujourd'hui. Soit des interviews, c'est des micros, des intervenants, parfois du divertissement. Et nous, on est plus dans, on enregistre nous-mêmes nos capsules. Et c'est de l'éducation. C'est un peu différent. C'est plus des capsules d'éducation plutôt que du podcast à proprement parler. C'est pour ça qu'on essaye. Je ne vais pas dire de ne plus du tout utiliser le terme podcast, mais...
De vous démarquer du reste.
Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, à l'époque où on était sur Spotify, Apple Podcast et SoundCloud, on était en Belgique très souvent dans les podcasts les plus écoutés en Belgique, donc on était très contents.
Ok, aujourd'hui, vous avez changé de modèle, vous avez un modèle freemium. Alors, expliquez-moi un peu comment ça marche. Qu'est-ce que c'est, Isilabus, finalement? Pour les Belges, Isilabus, ça parle parce qu'ils comprennent tout de suite. Pour les Français, c'est peut-être moins évident.
Ouais, mais en fait, pour le nom, on a réfléchi pas mal de temps là-dessus. J'en ai même fait une vidéo, j'invite tous les auditeurs de ce podcast à aller la regarder, qui explique toute la genèse du nom, etc. En fait, on a voulu juste montrer en un mot qu'on allait faciliter l'apprentissage, d'où le easy, et syllabus, c'était un mot qui est connu dans le monde, bon, peut-être pas nécessairement pour les mêmes choses, c'est-à-dire que nous, en Belgique, on utilise des syllabies directement pour étudier, en France, c'est un peu différent, mais ils savent au moins que ça touche à l'éducation, et même aux États-Unis, en Angleterre, ils savent que syllabus, ça vient de l'éducation, et donc on voulait l'éducation facilitée, easy, syllabus. Maintenant, comme je dis dans la vidéo d'ailleurs, je pense pas que ce soit le meilleur nom ou que ce soit le plus facile à prononcer ou le plus facile à comprendre, mais c'est de toute façon pour nous, c'est ce qu'on en fait plutôt que ce que c'est pour le nom. Et donc le modèle, on est effectivement passé en freemium, c'est-à-dire qu'on a lancé notre application le 15 mars, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et donc on peut utiliser l'application gratuitement moyennant l'écoute de certaines publicités dès qu'on lance un spot. Un spot éducatif et certaines features qui sont pas disponibles en gratuit, typiquement l'écouteur connexion, la lecture du PDF en même temps qu'on l'écoute directement sur l'application et le fait d'écouter justement des publicités.
Ok. Et alors, comment ça marche concrètement? Donc, si je suis un étudiant et j'ai envie d'enregistrer mes propres notes, parce que pour l'instant, vous travaillez uniquement avec des universités, des hautes écoles belges, si j'ai bien compris.
Oui, belge francophone.
Belge francophone. Et est-ce que ça ne vous tente pas d'ouvrir à la France, à la Suisse?
Oui, effectivement. Mais une fois de plus, hein, marché belge francophone qui plus est, c'est un petit marché. Enfin, c'est un petit marché par rapport à d'autres pays. On est sur plus ou moins 230-250 000 étudiants du supérieur en francophonie en Belgique.
En même temps, ça vous fournit un beau panel pour un test avant
C'est ça.
de lancer un nouveau
Exactement. Et
modèle.
puis en plus, on connaît bien le marché belge, on sait comment le système éducatif fonctionne. C'est parfois très différent. Par exemple, en France, c'est très différent. En Angleterre, c'est un peu plus proche de nous, mais en France, il y a un système de concours, etc., de partiel. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont différentes, donc il faut faire attention avant de s'implanter dans un autre pays. Mais c'est typiquement quasiment 3 millions d'étudiants du supérieur, donc quasiment 10 fois plus, quoi. Donc voilà. Mais donc, en tant qu'étudiant belge francophone, si vous voulez des notes, vous pouvez directement proposer un cours sur EasyLabus, et nous on va le produire ou non en fonction de la demande. Mais on veut lancer effectivement un concept qui va arriver assez rapidement sur EasyLabus, dans lequel n'importe qui pourra uploader, et pas nécessairement basé sur des notes de cours, mais pourra uploader une capsule éducative. Donc il prend son téléphone, il s'enregistre, il poste sa capsule, et voilà. Et donc en fait, on ouvre la plateforme à n'importe qui, parce que là pour l'instant, la production de contenu est à 100% internalisée. Et donc, comme vous le dites, on est assez vite fermé dans la production qu'on fait, parce que chaque cours est pour une certaine niche, quoi.
Oui. Et alors, vous avez aussi un système de monétisation. Ça veut dire que si les cours ont du succès, qu'ils sont écoutés, l'auteur peut aussi comment recevoir une
Effectivement,
commission ou...
c'est ça. Bon, il y a l'auteur de la synthèse actuellement pour les cours autoproduits, et donc là, on essaye de trouver un système en ce moment de contrepartie pour ces gens-là. Mais pour effectivement les gens qui vont enregistrer directement sur l'application, il y aura un système de contrepartie. On essaye de réfléchir, parce qu'évidemment en Belgique c'est compliqué niveau administratif et légal de payer des gens comme sur YouTube par exemple, c'est très compliqué. Mais on essaie de réfléchir évidemment à un système de contrepartie.
Ok. Et moi, je voulais vous demander aussi, par rapport à d'autres applications, quelles sont vos spécificités, donc par rapport à d'autres applications pour étudiants?
Oui. Alors nous, on met à fond l'audio évidemment en avant, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est comme je l'ai dit, on peut faire potentiellement autre chose que juste d'écouter le cours pendant qu'on est en train de l'écouter. Donc on met en avant le fait qu'on peut, voilà, faire la vaisselle, je sais pas, comme moi je l'ai fait quand j'étais étudiant. Donc voilà, on peut faire plein de choses et écouter en même temps. On met aussi en avant le fait que quand on écoute, on retient potentiellement 2 à 3 fois plus ce qu'on écoute que ce qu'on lit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant aussi. Et donc ça, c'est l'avantage par rapport à l'audio. Et puis après, notre plateforme, elle se concentre directement sur les contenus condensés, c'est-à-dire des notes de cours, résumés et synthèses. Et donc on va à l'essentiel, on apprend la matière qui va potentiellement plus passer à l'examen que le syllabus qui fait 400 pages.
Oui, c'est
Et
ça.
donc
Donc, ce n'est pas juste une lecture d'un syllabus, il y a réellement un travail de synthèse avant d'enregistrer et de proposer.
Exactement. En fait, les synthèses ne sont pas faites par nous, elles sont faites par les étudiants directement, et nous, on demande évidemment l'accord aux personnes qui ont fait ces synthèses, qu'on en fasse de l'audio, et on les publie après sur l'application.
Ok, et les personnes qui font les voix, alors, qui sont-elles?
Alors, c'est des gens, des étudiants et étudiantes qu'on a recrutés et triés sur le volet. Ils nous ont envoyé. En fait, il y a eu beaucoup de candidatures, surtout qu'on est tombé en plein Covid et qu'il y a beaucoup d'étudiants qui avaient très peu de jobs étudiants justement. Et donc là, ils pouvaient travailler de chez eux, parce qu'en fait, ils passent un test. Enfin, d'abord, il y a un processus de candidature, et en plus, ils passent un test. Donc, ils nous envoient. On leur envoie un texte à réciter. Ils nous l'envoient en capsule audio. Et là-dessus, on juge si on les embauche entre guillemets ou non. Et donc, on était 12 au début. Maintenant, on est un peu plus de 20. Enfin, ils sont un peu plus de 20. Et donc ils sont rémunérés en fonction de la prestation qu'ils sont faits directement. Et donc on leur envoie les cours, ils les récitent, ils nous les envoient en capsule audio, on les publie sur l'application.
Ok, donc assez simple comme système là aussi.
Oui. Maintenant, on va essayer évidemment d'augmenter nos standards de qualité entre guillemets. Ce qu'on acceptait peut-être avant va être moins accepté de nos jours, parce qu'on veut évidemment que sur la plateforme chaque contenu soit de qualité, quoi.
Ok, parfait. Alors, est-ce qu'il y a des domaines où ça peut ne pas fonctionner, ce système-là, ou bien est-ce que ça peut s'appliquer à... Parce que j'ai vu sur l'appli que j'ai téléchargée sur mon propre smartphone, j'ai vu quand même qu'il y avait du droit, des sciences, des maths, enfin, il y a du commercial, enfin, il y a pas mal de
Ouais.
domaines qui sont couverts.
Effectivement, on essaie de toucher le maximum de facultés possibles. Maintenant, évidemment, on va pas pousser jusqu'au bout. C'est très difficile de faire de l'anatomie, de faire des statistiques appliquées en audio. C'est très compliqué, surtout que nous, on a déjà essayé, on prend le cours et on voit plein de formules, de la chimie, etc., de chimie organique, c'est très, très compliqué. Donc, il y a des cours qui sont beaucoup plus compliqués à faire, voire impossibles. Et donc, à ce moment-là, nous, on espère que justement, quand on lancera ce système de n'importe quel étudiant pourra venir expliquer la matière, eh bien, les experts dans leur domaine pourront vulgariser ça et rendre ça plus audible, entre guillemets, que juste de la citation de formule, ce qu'on ne sait pas faire pour l'instant. Et donc, on se concentre, entre guillemets, sur les cours plus verbeux de chaque faculté, et ça fonctionne très bien comme ça, je vais dire.
Ok. Et alors, je voulais vous demander aussi comment se procurer le modèle freemium, puisque vous avez un modèle freemium. Donc, combien ça coûte, ce modèle freemium?
Alors, ça coûte 3,99€ par mois, mm-hmm. ou 39,99€ par an. Maintenant, c'est un pricing, comme je vous ai dit, on l'a lancé en 15 mars, le 15 mars. Donc, c'est un pricing qui va potentiellement changer. On essaie de voir un peu comment est-ce qu'on peut adapter ce pricing pour qu'il plaise le plus aux étudiants, mais qu'on arrive, nous, à dégager un chiffre d'affaires assez intéressant aussi. Donc voilà, ça c'est le pricing pour l'instant.
Donc pour l'instant, c'est plutôt une phase de test que un véritable pricing.
C'est ça. Mais il donne droit, donc, comme je l'ai dit, au fait de pouvoir écouter sans publicité, l'écouteur connexion et la lecture du PDF en même temps qu'on l'écoute. Voilà.
Ok. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite utiliser EasyLabus?
Mais moi, je lui conseillerais de continuer à aller en cours, parce que parfois on a des détracteurs qui nous disent que on incite les étudiants à ne plus aller en cours, alors que pas du tout. Nous, on dit aller en cours.
Moi, je n'ai vu ça nulle part sur l'application, ni sur le site web non plus. C'est pas parce qu'on utilise des outils qu'on doit se dispenser d'aller au cours ou de travailler
exactement
de manière classique.
On exactement. Et donc, on dit continuer à aller en cours, c'est un outil, comme vous l'avez dit, à la réussite, d'aide à la réussite. Écoutez-le potentiellement dans les transports en commun, pendant que vous faites, je le dis, la vaisselle, etc. Ou même juste avant de dormir, une ou deux capsules avant de dormir, ça passe très bien aussi. Et surtout, quand on va lancer ce système qu'on va appeler Boost, donc quand ça va s'ouvrir à toute la communauté, ben n'hésitez pas à en faire, à en produire, parce que il y a beaucoup de barrières. Hein. Je parle peut-être un peu trop, mais il y a beaucoup de barrières à la production de contenu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se pensent pas assez compétents, qui n'aiment pas leur voix et qui hésitent à publier du contenu. Donc là, une fois que ce sera lancé, n'hésitez vraiment pas à produire du contenu.
Ouais, je crois qu'il ne faut pas être timide, qu'il faut y aller, quoi. Il faut essayer.
Exactement.
Ouais, exactement, je suis bien d'accord. Alors, il y a une tradition dans ce podcast, c'est à la fin de demander à l'invité est-ce qu'il a un coup de cœur ou un scoop à partager avec nous, avec la communauté.
Alors, qu'est-ce que j'ai comme coup de cœur récemment? Moi, comme je l'ai dit, passionné d'entrepreneuriat, donc je regarde tout ce qui concerne l'entrepreneuriat belge, français, que ce soit sur YouTube, des articles sur LinkedIn, bref, peu importe. Et j'adore tout ce que fait The Family. Je sais pas si vous connaissez The
Family.
Oui,
tout à fait, oui.
Mmh. L'incubateur français. Donc, moi, je regarde toutes leurs vidéos. Ils sont un petit peu moins productifs pour l'instant parce que voilà, il y a le Covid, etc. Mais moi, je regarde toutes ces vidéos, tous les podcasts qui parlent de ça. J'adore un personnage qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard, qui est très connu aussi en France. Et j'adore tout ce qu'il fait, tout le contenu. Il balance du contenu gratuitement et j'adore tout ce qu'il fait. Donc voilà. Et s'il y a des entrepreneurs étudiants qui nous écoutent, pourquoi pas aller postuler au Start Lab de l'ICHEC? Ils prennent les étudiants de n'importe quelle école, donc n'hésitez pas à postuler.
Oui, mais je les connais bien aussi. Je suis passé aussi par l'ICHEC il y a de nombreuses années. Donc, j'avais fait le module sur la gestion de PME.
Ok.
Et donc, j'ai rencontré le créateur de l'incubateur et effectivement, ce sont des gens de qualité. Donc, je recommande aussi chaudement.
Super.
Sans problème. Ok. Ben, Antoine, merci infiniment pour nous avoir éclairé sur EasyLabus. Ben, tout le mal que je vous souhaite, c'est de continuer à connaître le succès. Je pense que
merci
vous
bon.
Êtes bien parti. Donc, voilà, et puis peut-être que dans un an ou deux, on se redonne rendez-vous et voir ce que devenu EasyLabus, et si vous êtes implanté en France, en Suisse, en Angleterre, pourquoi pas.
Super.
Ok, merci infiniment, à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, j'aurai le plaisir d'inviter Emmanuel Champy, qui nous parlera de Tumult, une application sociale de podcasting. À très bientôt.